CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard et je suis encore avec Sylvain Bersinger, économiste et auteur du livre Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Merci d'être avec moi. Installe-toi bien. Entrepreneur de légende, c'est parti.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Aujourd'hui, Sylvain, on s'intéresse à un empire industriel dont les bases reposent avant tout sur une innovation scientifique. Une innovation qui va révolutionner l'automobile, mais pas que. Et cette innovation, on la doit aux frères Michelin. Sylvain, on le sait, l'histoire des Michelin est étroitement liée à la ville de Clermont-Ferrand.
Oui, en effet, c'est en 1832 que deux entrepreneurs clermontois, donc qui s'appellent Barbier et Daubré, créent une petite entreprise de caoutchouc. Donc au début, c'est vraiment une petite affaire très modeste, une petite PME, on dirait aujourd'hui, donc qui connaît des hauts et des bas, et disons même plus de bas que de hauts, à tel point qu'elle frôle la faillite. Et en 1886, elle va être reprise par donc André Michelin, qui est le petit-fils d'un des fondateurs, Aristide Barbier, et qui est à l'époque un ingénieur, un jeune ingénieur talentueux à Paris, hein, qui est ingénieur dans les poutrelles métalliques, un peu comme Eiffel ou Baltar, donc qui a créé une petite entreprise à Paris dans les poutrelles mécaniques, et qui retourne à Clermont-Ferrand pour reprendre l'entreprise familiale qui est clairement en train de péricliter. Et donc il ne va pas la reprendre seul, cette entreprise, puisqu'il va convaincre son frère, donc son frère Édouard, son jeune frère, de venir travailler avec lui dans l'entreprise familiale. Autant André Michelin est un ingénieur de formation, autant Édouard Michelin, lui pas du tout, c'est un artiste, il a fait les beaux-arts, il ne s'intéresse pas du tout à l'industrie, mais il se laisse convaincre et les deux frères donc, reprennent l'entreprise de caoutchouc familiale. Et au début, ils ne connaissent rien au caoutchouc. Donc, ils apprennent sur le tas comment fonctionne l'industrie du caoutchouc.
Ils débarquent et donc, ils renomment l'entreprise Michelin et compagnie.
Voilà. Voilà. Donc, l'entreprise prend le nom de Michelin. Donc, en 1889. Donc, c'est une entreprise qui a déjà plusieurs décennies d'expérience dans le caoutchouc. Mais les deux fondateurs, eux, sont complètement nouveaux. Hein. Ils apprennent sur le tas avec les ouvriers, etc. Et ils développent des premiers produits, notamment des freins à charrette. Puisqu'avant, il y a des freins métalliques qui étaient très bruyants, et eux font des freins en caoutchouc. Et donc, l'entreprise qui était au bord de la faillite parvient à redresser la pente et à devenir profitable.
Mais c'est un autre événement qui va faire basculer cette entreprise.
Oui, donc Michelin, donc fondé en 1889, fabrique des produits de caoutchouc totalement banal. Et cette même année, il y a un touriste anglais qui se promène en Auvergne à vélo.
Donc touriste à vélo, un cycliste.
Voilà, un cycliste. Donc le vélo est une innovation assez récente à l'époque. Et ce touriste anglais a la particularité d'avoir des roues avec des pneus. Et il crève, comme ça arrive souvent, et il n'arrive pas à réparer parce qu'il n'a pas le matériel. Donc il se renseigne dans la région, qui peut l'aider, et on l'oriente naturellement vers l'entreprise de caoutchouc clermontoise des Michelin. Et donc ce cycliste arrive avec son vélo sur l'épaule dans l'entreprise Michelin et dit « Bon, j'ai crevé, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Et donc les Michelin, à l'époque, ne fabriquent absolument pas de pneumatiques. Et donc, il regarde le pneu de ce cycliste anglais, hein, qui est un pneu Dunlop.
Dunlop qui était un peu l'inventeur de la chose.
Oui, voilà, c'est un Écossais qui, quelques années plus tôt, a inventé les premiers pneus. Donc, c'est un des précurseurs des pneumatiques. Et donc, les Michelin voient ce pneu avec leurs ouvriers. Ils mettent plusieurs heures à réparer cette simple crevaison.
J'imagine tellement la scène.
Voilà, ils n'ont jamais vu un pneu. Ils regardent ce truc-là et ils se disent « Qu'est-ce que c'est? Comment on va pouvoir réparer ?» Et ils ont une idée. Et leur idée, c'est que le pneu donc Dunlop de ce cycliste anglais, il est collé à la jante. Et eux se disent, mais ce pneu collé à la jante, c'est pas du tout pratique. Quoi, ils se disent, ça prend quelques mois quand même, hein, c'est pas eureka.
Oui, c'est l'événement qui leur a
voilà,
fait penser à ça.
Voilà, c'est l'événement déclencheur. Donc après, ils ruminent ça un peu dans leur tête et ils se disent, mais en fait, il y a une solution assez simple, c'est qu'en fait, la chambre à air devrait être dissociée de la jante. Et comme ça, on pourrait l'enlever et ce serait bien plus facile à réparer. Et donc, ça va être ça, l'invention réellement novatrice des frères Michelin, qui va déterminer toute la suite de l'histoire de l'entreprise, c'est qu'en fait, ils inventent la chambre à air.
Ils inventent le pneu démontable, en fait.
Voilà, le pneu démontable avec la chambre à air démontable, alors que Dunlop, lui, avait un pneu avec une chambre à air, mais collé sur la jante, ce qui était beaucoup moins pratique pour réparer.
Donc, une innovation scientifique, mais qui est complètement dû au hasard, en fait, à la chance.
Oui, totalement, totalement. S'il n'y avait pas eu ce cycliste anglais qui avait creusé aux environs de Clermont-Ferrand, probablement que les Michelin n'auraient jamais fait de pneumatique.
Donc, Quelques semaines après que ce brevet soit déposé par les frères Michelin, ils bénéficient de publicité en gagnant des courses, en fait.
Oui, donc les courses cyclistes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Ça existait déjà à l'époque. C'était même très populaire, peut-être même plus qu'aujourd'hui. Une des courses les plus populaires, un peu l'équivalent du Tour de France, c'était Paris-Brest-Paris. Donc on partait de Paris, on allait à Brest et on revenait. Et en 1891, donc juste après que les frères Michelin aient créé leur premier pneu pour vélo, avec leur nouvelle chambre à air démontable, donc le cycliste Charles Théron, qui était un peu la vedette cycliste de l'époque, utilise leur pneumatique sur cette fameuse course Paris-Brest-Paris et gagne haut la main. Et donc là, c'est un coup de publicité énorme pour les Michelin. Et à partir de là, le succès de leur pneu est réellement lancé et se démentira jamais.
Mais ils continuent quand même d'innover puisqu'ils vont décider de faire en sorte que ce pneu puisse être réparé d'une crevaison rapidement.
Oui, voilà. Alors ce nouveau pneu, il peut être réparé en 2 minutes. Et donc il faut se rappeler que quand le fameux cycliste anglais était venu dans l'usine Michelin, ils avaient mis plusieurs heures. Donc c'est un gain de temps absolument considérable. Et donc ce pneu est tout de suite adopté par tous les cyclistes sur les courses, mais pas seulement. Parce qu'à l'époque, hein, les routes n'étaient pas ce qu'elles sont. C'est des pavés, les pneus souffraient beaucoup. Il y avait beaucoup de crevaisons. Et donc en permettant la réparation très rapide des crevaisons, ils apportent une innovation complètement révolutionnaire et tous les cyclistes très rapidement adoptent les pneus Michelin.
Bah oui, en plus ils en font la publicité, ils font eux-mêmes des courses, ils ont fait le Paris Clermont-Ferrand pour promotionner tout
oui,
ça.
Oui, on raconte même, j'ai lu ça dans une biographie, je sais pas, c'est peut-être un petit peu exagéré, ça paraît tellement exagéré, ils ont organisé cette course et effectivement ils auraient fait semer des clous sur le parcours pour que les cyclistes crèvent et qu'ils se rendent bien compte qu'avoir des pneus Michelin démontables c'est vraiment beaucoup plus pratique.
J'ai envie de te proposer de garder cette légende.
Voilà, disons qu'elle est vraie parce qu'elle est cocasse.
Et il va y avoir un autre tournant, 2 ans après cette course, justement, Paris-Clermont-Ferrand. André Michelin assiste en tant que spectateur à une autre type de course, c'est une course automobile entre Paris et Rouen.
Oui, alors il y avait des courses cyclistes à l'époque, il y avait aussi des courses automobiles pour les premières voitures. Et l'idée des Michelin, ça va être d'adapter leurs pneus aux voitures. Alors ça nous paraît aujourd'hui totalement logique, mais à l'époque ça n'était absolument pas et personne n'y croyait. Puisqu'on se disait, un pneu, une chambre à air sur une voiture, la voiture est beaucoup trop lourde, le truc va éclater, ça ne marchera jamais. Puisqu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des bandages pleins, donc en fait c'était des roues de caoutchouc, mais en matière pleine, qui étaient alors très solides, et bien sûr qui ne crevaient pas, mais qui étaient aussi très inconfortables. Et le pari des Michelin, c'est de se dire, ben, nos pneus qui marchent sur des vélos, on va les mettre sur des voitures. Donc personne n'y croit, tout le monde dit, mais ça ne marchera jamais, vos pneus vont éclater sous le poids de la voiture, etc. Alors les débuts sont un petit peu difficiles, puisque les Michelin tentent eux-mêmes de participer à des courses automobiles en équipant leur voiture avec leurs pneus. Alors au début ça marche pas très bien, parce que alors peut-être qu'ils sont mauvais conducteurs, hein, c'est peut-être pas dû aux pneus, on sait pas trop, mais en tout cas ils arrivent derniers, enfin, ça met un peu de temps à prendre, mais en fait très vite, tout le monde se rend compte que bah non, des pneus sur une voiture, le pneu n'éclate pas, et que c'est beaucoup plus confortable, que ça marche beaucoup mieux. Et donc en fait le marché des Michelin va être démultiplié quand ils passent à l'automobile.
Donc encore une fois, l'innovation va payer dans le milieu de l'automobile, mais ils décident aussi d'innover en termes de communication.
Oui, alors les Michelin, c'est des innovateurs dans les sciences, hein, ils inventent des nouveaux produits, des nouveaux pneus, mais c'est aussi des très bons communicants. Et donc évidemment, on pense au fameux Bibendum, donc le bonhomme Michelin, qui est né en fait de manière assez... un peu comme leur pneu, de manière un peu sur le tas. Donc c'était une exposition. Ils présentaient leurs produits. Donc ils faisaient des pneus, des chambres à air pour tout type d'engins. Donc des vélos, des fauteuils roulants, des chariots, des voitures, etc. Et donc un employé, pour présenter les pneus, se met à les empiler. Donc des pneus de différentes tailles. Et les frères Michelin se disent, mais enfin cette pile de pneus, si on lui met deux bras et une tête, ça fait un bonhomme. Et donc Bibendum, le personnage Michelin, naît à cette occasion. Alors le nom de Bibendum n'a absolument rien à voir avec les pneus, puisque ça vient du latin, ça voulait dire boire. Donc c'est
rien à voir.
Rien à voir. Donc ça vient d'une campagne publicitaire et le slogan c'était, alors je vais le dire en latin, je sais pas si la prononciation est bonne, mais c'était Nunc est Bibendum. Donc ce qui traduit en français veut dire c'est maintenant qu'il faut boire. Et les Michelin, qui sont pas très à cheval sur la linguistique, le traduisent par le pneu Michelin boit l'obstacle.
Ah oui,
donc Bibendum, vraiment... ça vient de boire, du latin boire, et avec l'idée de boire l'obstacle. Donc on s'imagine les routes pavées, et les pneus Michelin boivent les obstacles de ces routes un peu cabossées.
Mais là, la naissance de ce bibendum, c'est encore une fois un peu dû au hasard, en fait. Leur vie est ponctuée de petites chances, comme ça.
Oui, voilà. S'il n'y avait pas eu cet employé qui s'était mis à empiler des pneus dans un stand, ils n'auraient peut-être jamais eu l'idée de faire bibendum. Et s'il n'y avait pas eu cette campagne de publicité avec ce terme latin de bibendum qui a été associé ensuite à ce personnage de pneus, le terme bibendum n'aurait jamais existé, effectivement.
Alors, après toutes ces publicités et tout, il continue quand même d'essayer de s'améliorer dans le monde de l'automobile désormais.
Oui, alors ils font des pneus pour tout type de voiture, mais bien sûr pour l'automobile. Donc ils vont inventer par exemple les pneus à clous. Donc là on est dans l'après-guerre, on est dans les années 20, donc qui permettent de rouler sur la neige et sur le verglas. Alors juste Mickaël, sur la promotion, il y a quelque chose que je trouve très rigolo. C'était à Paris. À l'époque, les autobus parisiens roulaient sur des bandages pleins, donc des roues avec du caoutchouc plein, donc pas très confortable. Et les cochons, les livreurs de cochons dans leurs camions, soi-disant, selon les Michelin, utilisaient des pneus Michelin à air, donc plus confortables. Et les Michelin ont fait une grande campagne d'affiches publicitaires où il y avait d'un côté une photo d'un autobus avec des bandages pleins, de l'autre côté une photo d'un camion transportant des cochons avec des bandages à air. Et le slogan, c'était quelque chose du genre « C'est un scandale, les cochons sont transportés sur des pneus à air, alors que les Parisiens sont transportés sur des bandages pleins, mais que fait le gouvernement, etc. » Et donc ça a fait un buzz, comme on dirait, un buzz monumental. Et donc les bus parisiens, d'autres villes aussi, se sont tous mis à avoir des pneus Michelin à air.
Et donc, ces frères Michelin innovent dans l'automobile, dans la communication, mais pas que, puisqu'on les retrouve dans un univers où, moi personnellement, je ne les attendais pas, c'est l'édition.
Oui, en effet. Alors, au début, alors, on a complètement oublié, mais au début de l'automobile, prendre sa voiture, aller sur la route, c'était pas du tout un geste anodin, puisque les routes étaient évidemment dans un état déplorable. Il n'y avait pas d'indication, il n'y avait pas forcément des garages, il n'y avait pas forcément des stations essence. Donc, les débuts de l'automobile, c'était une aventure.
Ah oui, tu partais en aventure complètement.
Voilà, littéralement. Et donc, ce qu'ont fait les frères Michelin, c'est qu'ils ont créé un guide Michelin, qui au début était un guide pour que l'automobiliste puisse trouver sa route. Donc il y avait des cartes, on lui disait où il y avait des stations d'essence, on lui disait où il y avait des hôtels, où il y avait des travaux peut-être, ou par où il fallait passer, etc. Les Michelin avaient même mis en place un service où quand on faisait un trajet en voiture un peu long, on appelait ou on écrivait au service, on leur disait je vais aller de là à là, quelle est la meilleure route, où est-ce que j'aurai une station essence, etc. Et Michelin informait les automobilistes de la meilleure route à suivre, des points d'arrêt potentiels, etc.
Mais en fait, c'est pour complètement démocratiser l'utilisation de l'automobile et pour, du coup, faire des pneus.
Ah bah bien sûr, c'est pour faciliter la vie des automobilistes. Donc plus de voitures dit plus de pneus et donc plus de ventes pour Michelin. Ils ont fait par exemple aussi du lobbying pour qu'on numérote les routes, pour qu'on améliore les panneaux d'indication, etc. Et donc, il y a bien sûr ce fameux guide qui, au début, est là pour aider l'automobiliste dans son trajet. Et donc, au fur et à mesure du temps, le système routier s'améliore, les indications s'améliorent, les stations d'essence sont présentes partout, etc. Donc, les conseils pratiques n'ont plus trop lieu d'être. Mais ce qui va rester, c'est les conseils gastronomiques. Donc, au début, on disait aux automobilistes, vous pouvez arrêter là, dans telle auberge, etc. Et cette partie-là va rester. Et donc, le guide Michelin va progressivement évoluer vers un guide, en fait, purement gastronomique qu'on connaît aujourd'hui.
Et en parallèle, les frères Michelin continuent d'innover.
Oui, alors c'est des très bons communicants, mais pas que, c'est aussi des très bons ingénieurs qui ont toujours des nouvelles idées pour leurs produits. On peut bien sûr penser aux pneus à clous, dans les années 1920, qui permettent de rouler sur la neige pour la première fois, hein, puisqu'avant, les voitures sur la glace et sur la neige étaient des vraies savonnettes. Donc ils innovent dans ce domaine-là. Ils innovent dans le ferroviaire, puisqu'ils inventent la Micheline. Donc la Micheline, c'est un train sur pneus, hein, donc ça vient évidemment du nom Michelin. Hein, après,
c'est un train emblématique, la Micheline. On a tous vu des Michelines quand on était jeunes sur les voies ferrées.
Oui, voilà. Alors après, la Micheline, je sais que beaucoup de gens utilise ce terme pour dire un petit train, quelle que soit la roue. Mais à la base, la Micheline, ça vient de Michelin et c'est un train sur pneus, inventé par Michelin, évidemment, pour vendre plus de pneus.
Et oui, et donc, Sylvain, toutes ces innovations prouvent qu'il n'y a pas que de la communication derrière le succès de Michelin, ça n'aurait pas pu tenir, c'est aussi beaucoup d'innovations.
Oui, bien sûr, c'est une entreprise qui est totalement novatrice dans ses produits. Et donc ça va se retrouver même après la guerre, après la mort des fondateurs. Hein, donc les deux fondateurs, André et Édouard Michelin, meurent dans les années 30 et puis Édouard en 1940. Et après la guerre, leurs successeurs vont continuer à innover. Donc, ils vont inventer, par exemple, les pneus tubeless, donc les pneus sans chambre à air. Ils vont inventer les pneus qu'on appelle radial, c'est-à-dire une autre structure du pneu beaucoup plus résistante. Donc, c'est toujours une entreprise qui aura cherché à innover dans un produit dans lequel on n'entendait pas forcément énormément d'innovation, un produit qui a l'air assez banal. Et en fait, les Michelin ont constamment réussi à inventer des nouvelles choses dans ce produit.
Et ils ont réussi aussi à faire une entreprise qui dure et qui fait désormais partie de la culture populaire.
Oui, bien sûr. En fait, Michelin, c'est aujourd'hui une des marques préférées des Français qui rivalise en fait avec les marques de luxe, ou avec les marques de luxe automobiles, les BMW, les Louis Vuitton, etc. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, ils partaient d'un produit désespérément banal, le pneu, et avec leur communication, avec Bibendum, avec leur style, en fait, ils en ont fait un produit presque sexy, en fait, on pourrait dire.
Qui a été même récupéré par Salvador Dali.
Oui, il y a plusieurs artistes qui l'ont récupéré, dont Salvador Dali, oui.
Donc une marque qu'on connaît tous évidemment encore maintenant, et puis maintenant on connaît en plus l'histoire des fondateurs. Merci beaucoup Sylvain.
Merci à toi Mickaël.
Je te donne rendez-vous évidemment dans le prochain épisode d'Entrepreneurs de Légende, qu'on peut retrouver sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio. Restez à notre écoute, à bientôt.
CDI Podcast, Entrepreneurs de Légende.